c'est Martine. Merci de choisir Radio Plus pour accompagner votre début de semaine. Jean de la Bruyère disait « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté ». Chaque lundi, nous déclinerons ensemble ce mot « temps » à la fois pour le combler, pour le passer agréablement, pour en faire quelque chose d'utile, pour ne pas le perdre, pour quelquefois le rattraper, pour ne pas le trouver long, pour apprécier l'éphémère, pour le rendre fort aussi, pour le rendre moderne mais pas trop, pour en parler au passé, pour le tromper, pour le tuer, pour qu'il ne soit jamais maussade. Bref, chaque lundi de 9h à 10h, je vous dirai comment rester dans l'air du temps en le prenant comme il vient. C'est sur Radio Plus, votre radio.
Bienvenue, je peux le redire, puisque c'est le saint du jour, que dis-je, la sainte du jour, puisqu'il s'agit de la bienheureuse italienne Bienvenue Boggiani, qui vécut de 1255 à 1292, et cette bienheureuse italienne est connue pour s'être infligée les pires supplices. Alors des supplices, eh bien il n'y en aura pas dans cette émission, je vous rassure, et surtout je vous souhaite une très très bonne matinée. Dans ce show, eh bien, d'abord notre rubrique « Saletant sur la planète » pour laquelle nous retrouverons aujourd'hui Jean-Louis Ouatté, président de l'Extrême Nature pour la biodiversité. Et justement, on en parlera aujourd'hui puisque, triste bilan, depuis 30 ans, les populations d'insectes volants ont chuté de 80%. Et il faut quand même savoir que ces insectes jouent un rôle crucial dans la pollinisation. Alors Jean-Louis nous dira sans aucun doute que les pesticides, insecticides, bref, les produits phytosanitaires y sont pour quelque chose dans ce déclin. Et justement, Bertrand Trinel, le président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, nous dira encore cette semaine que nous pouvons jardiner autrement, car il faut quand même savoir que chaque année, un peu moins de 5000 tonnes de pesticides, fongicides, herbicides, insecticides sont répandus en zone non agricole, et que sur les 17 millions de jardiniers amateurs en France, eh bien, 32% estiment que ces produits sont dangereux, alors que 20% considèrent encore que ces produits sont sans danger. Et puis, en point de mire aujourd'hui, Julie Descriem, une artiste qui travaille le verre et qui réalise d'ailleurs des prototypes en verre soufflé, et surtout en verre soufflé pour arc-en-ciel. internationale, une grande entreprise dans notre région. Alors, musique avec basse. Alors, j'espère que vous ne faites pas partie des 57% des Français choqués par le mot bordel, car il le chante, notre ami basse.
Je regarde plus les nouvelles, je sors plus les poubelles, un peu besoin de bordel. Et dis-moi que tu m'aimes, et dis-moi que tu m'aimes. Je joue pas les rebelles. Je sais que je ne suis pas éternel, mais je sors plus de ma ruelle. Et dis-moi que tu m'aimes, et dis-moi que tu m'aimes. Il n'y a plus rien. Quelques mégots. Ah, dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. J'attends plus de tes nouvelles. Tu n'es plus dans mon ciel, je te vois plus dans mon ciel. Tu n'es plus dans mon ciel.
Alors, l'enquête de cette semaine dans l'air du temps, eh bien, 7,8 millions de Français s'adonnent à la course à pied. Et mesdames, vous êtes dans ce beau pays qui est notre France, 3,4 à pratiquer ce sport. Alors, vos motivations, eh bien, tout d'abord, vous le faites pour 66% d'entre vous pour une meilleure hygiène de vie. Pour 51%, vous le faites pour la détente. Et puis, les 40, il y a 45% d'entre vous qui le font pour le meilleur, parce que c'est le meilleur moyen de prendre soin de votre santé. Alors, il est vrai que courir serait bénéfique pour la santé et permettrait de vivre plus longtemps. Et en effet, des études menées par l'University of British Columbia disent que courir permettrait la réduction de la mortalité prématurée chez 20 à 50% des individus courant de plus de 3 km par jour. Courir améliore la santé et c'est un remède efficace pour perdre du poids. Et puis cela améliore la santé des os, ça aide à la concentration et permet d'améliorer notre immunité. Et puis, c'est un bon remède pour les insomniaques car ça aide à réduire le stress. Et puis cela a été prouvé, comme tout le reste d'ailleurs, que c'est une bonne prévention contre les cancers. Alors, courons.
Résonner mes pieds sur l'asphalte, souffle tapant dans mes tapons, je cours. Allonger la foulée de rêves, je suis plus dans le marche ou crève, je cours. Entre les blocs, entre les grilles, et dans l'intérêt des familles, je cours. Je déroule le tissu urbain, entre Italie et Pantin, je cours. Et puis la montée d'endorphine, c'est meilleur que la cocaïne, je cours. Je cavale dans le monde entier, et personne ne me court après, jamais. Maintenant plus rien ne m'arrête, je suis un nuage, une flèche, je cours. Il y a dans le creux de mes reins, la locomotive des reins, je cours. Mes poumons ont de l'amplitude, je vais prendre de l'altitude, je cours. Comme un forcené, un démon, contre la montre, à contre-temps, je cours. Mes tendons me tapent sur les nerfs, mes chaussures ont des coussins d'air, je cours. Je cours plus vite qu'une balle, plus vite qu'une attaque cérébrale, je cours. Vieux Parnasse, sur les traces de Fantomas, je cours. Surtout lorsque le jour se lève, sur les chômeurs et sur la grève, je cours. Au-delà du bien et du mal, je peux vous dire que ça fait mal, je cours. Résonner mes pieds sur l'asphalte, souffle tapant dans mes tympans, je cours. Allonger la foulée de rêve, je suis plus dans le marche ou crève, je cours. Entre les blocs, entre les grilles, et dans l'intérêt des familles, je cours. Je cours. Je cours. Toujours plus vite. Je cours. Toujours plus loin. Je cours.
Bernard Lavilliers qui court, on l'a compris. Alors tout de suite, il court vers nous. Voici Jean-Louis Ouatté.
Seul dans sur la planète,
drôle, drôle de temps.
Et oui, les signes annonciateurs du naufrage s'accumulent. La solution ? Opter pour la force des passions et mener le combat nécessaire.
Alors je m'adresse aujourd'hui plus particulièrement au président de l'Étrême Nature, Association pour la Biodiversité, Jean-Louis Ouetté, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors de précédentes études avaient révélé un déclin inquiétant de la diversité de la population de certaines espèces, hein, comme les abeilles, les papillons, etc., etc., des insectes volants en Europe et en Amérique du Nord. Et bien sûr, nous en avons parlé avec vous, Jean-Louis. Oui, moult fois, mais ici le couperet vient de tomber. Des entomologistes allemands ont recueilli des données pendant 27 ans dans 63 réserves naturelles disséminées sur le territoire allemand. Ils ont pesé la masse totale des insectes qu'ils piégeaient et ont déterminé qu'elle avait diminué de 76% en moyenne et même de 82% au milieu de l'été. Alors ce qui fait craindre une catastrophe écologique imminente, disent-ils.
Oui, bah, la diminution de ce qu'on appelle la biomasse des insectes volants, bon, elle est suspectée depuis longtemps, mais elle s'est avérée plus sévère qu'on ne le pensait. Et puis le fait que cette population d'insectes se réduise en telle proportion et sur d'aussi vaste étendue géographique, c'est encore plus alarmant. Donc elle a été observée, il faut le signaler, quels que soient les changements météorologiques, l'utilisation des sols, les caractéristiques de l'habitat. Et puis la méthodologie suivie surtout est intéressante. Les scientifiques ont analysé 1500 échantillons d'insectes volants capturés sur 27 ans. Et toujours suivant la même technique qu'on utilise d'ailleurs nous à l'Étrême dans nos projets, c'est ce qu'on appelle la tente malaise. Donc malaise, c'est du nom, ça n'a rien à voir avec la Malaisie, hein. C'est du nom de l'inventeur, Monsieur Malaise. Donc c'est une structure en tissu de type moustiquaire qui est dressée dans le milieu naturel. Et puis donc ça piège les insectes, mais c'est des pièges qui ne sont pas sélectifs. Donc ça permet de ne pas se focaliser sur une espèce précise, comme on a pu le faire, on peut le faire avec les abeilles ou les papillons, mais donc ça permet d'avoir une étendue, une vue plus précise, et puis on peut ainsi estimer le déclin. Là, c'est vraiment le déclin d'une communauté biologique qui est celle des insectes. Donc cette approche globale, ça rend d'ailleurs les conclusions de l'étude d'autant plus alarmantes encore.
Alors, nous ne pensions pas que la situation était si grave. Grave, très grave, elle est. Vous allez nous redire pourquoi, Jean-Louis, nous confirmant bien que le terme de catastrophe n'est absolument pas une exagération quand on sait l'importance de l'insecte dans la chaîne alimentaire.
Oui, parce que les insectes présentent d'importantes diversités de formes, de comportements. Enfin, ici, on parle des insectes volants, mais les comportements sont différents. Ça occupe beaucoup de niches écologiques sur la Terre et les interactions avec l'homme sont cruciales. Hein. Bon, on connaît les pollinisateurs. Hein. Sans les plantes, les insectes ne pourraient pas vivre, mais le contraire est également vrai. Les plantes ont besoin des insectes qui servent à transporter le pollen. Et pour les attirer, elles produisent du nectar, elles dégagent des parfums. Donc les insectes pollinisateurs permettent la fécondation de nombreuses plantes végétales et aussi des cultures légumières, des arbres fruitiers. Donc c'est fondamental justement pour la production de légumes, la production de fruits. Alors pollinisateurs, mais aussi décomposeurs, hein. Faut savoir que beaucoup d'insectes sont, heureusement qu'il y a les insectes pour décomposer les déchets, les cadavres, les excréments, etc. Donc en s'alimentant, ces insectes vont recycler les composés organiques qui sont composés dans les détritus et puis les rendre accessibles pour d'autres organismes. Donc c'est une importance primordiale dans la structuration et la santé des sols. Et puis aussi, il faut savoir que les insectes dans la chaîne alimentaire, c'est une alimentation importante pour les autres espèces, par exemple les oiseaux, les batraciens, les chauves-souris. Donc une diminution drastique, comme on le voit, des insectes, ça a des conséquences importantes pour la vie sur Terre.
Alors, Jean-Louis, justement, peut-on imaginer ce qu'il pourrait advenir si ce phénomène des insectes ailés se poursuivait ? On mangerait des céréales ?
Les insectes nos ressources alimentaires seraient fortement réduites. Hein. Développement agricole compromis, certains produits n'existeraient tout simplement pas, on aurait très peu de fruits, de légumes frais à notre disposition, et ce qui ferait souffrir de nombreuses carences. Et puis, bon, comme je disais, le monde serait littéralement couvert de matière organique en décomposition. Donc, il en résisterait une complète dégradation des sols et la vie serait amenée à disparaître. Donc, la présence des insectes est fondamentale.
Alors, nous devinons bien évidemment votre réponse, Jean-Louis, mais je vous la pose quand même, car je crois qu'il faut enfoncer le clou. Quel est le responsable de ce déclin dramatique ?
Je dirais les responsables. Un gros responsable, bien entendu, c'est l'agriculture intensive, qui a une énorme responsabilité avec les produits sanitaires, les produits phytosanitaires. Alors, c'est des produits qu'on sait de plus en plus sophistiqués, hein, notamment l'enrobage de graines. Hein, c'est des produits systémiques. Donc, c'est des produits qui sont dosés avec précision, qui nécessitent peu de traitements. Donc, c'est assez subtil, puisque peu de traitements, ça veut dire moins de passages avec des pulvérisateurs. Donc, on se montre moins... dans les plaines, et donc avec ça, on a beau jeu de dire « Ah ben, vous voyez, on fait des efforts, on réduit de manière importante les traitements, alors que les traitements sont là, sont peut-être beaucoup plus ciblés, parce que faut savoir que l'industrie chimique ne reste pas les bras croisés, et que donc... quand on dit qu'on doit diminuer de 50% en quantité, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque les produits, maintenant, agissent à des doses infimes. Donc c'est une responsabilité importante. On le voit d'ailleurs avec le glyphosate. Mais bon, je dirais que l'agriculture n'est pas la seule responsable. Hein. On a aussi l'urbanisation. L'urbanisation avec une dégradation des habitats, avec la disparition des milieux humides, c'est aussi un enjeu énorme, et c'est une responsable de beaucoup de disparitions d'insectes volants. Donc tout ça lié, ça donne ces chiffres catastrophiques.
Ce déclin. Alors justement, vous parliez de produits phytosanitaires, et pourtant Monsanto, donc Bayer, continue de nier l'impact de ces produits.
Ah ben ça, c'est de bonne guerre. Hein. Donc les enjeux financiers, on le sait, sont tellement importants que tout est bon. Hein. On va nier l'impact des produits phytosanitaires, on va faire des études, on va impliquer des chercheurs dans des études, et puis forcément, ces chercheurs n'auront pas une vision très juste de ce qui se passe. Et donc tout ça, ça fait que on va faire du lobbying.
Alors, justement, en parlant de lobbying, nous sommes en pleine guerre glyphosate. On interdit plus. Cette étude devrait quand même chambouler les convictions de certains qui pensent qu'il ne faut pas interdire ce produit. Alors, pour ne pas les nommer, les agriculteurs, par exemple.
Oui, alors il faut savoir, si on revient un petit peu en arrière, il faut savoir que le désherbage chimique est apparu en grande culture dans les années 1950-1960. Ça a constitué pour l'époque une véritable révolution par rapport aux contraintes qui étaient liées à l'entretien mécanique du sol qui était pratiqué jusqu'alors. Donc, mais certains herbicides ont déjà été interdits, par exemple comme l'atrazine en 2003 et puis l'étriazine en 2004. Bon, je vous passe sur les détails parce que c'est des produits chimiques, c'est un peu compliqué. Enfin, il faut savoir qu'il y a déjà eu des interdictions. Donc le glyphosate, il est apparu dans les années 70. Donc on remet, donc avec ces interdictions, on remet en cause des usages, des pratiques, on remet en cause aussi, je l'ai dit, un marché financier important. Et donc, mais je pense qu'on est entré dans une phase de non-retour vis-à-vis du glyphosate. Malheureusement, ça va prendre du temps, mais et puis les dérives existent. Mais donc, je pense qu'on va arriver donc à l'interdiction du glyphosate. Mais bon, c'est toujours assez long. Malheureusement, interdiction, il faut suivre après, parce que si on prend l'atrazine qui a été interdit en 2004. en Europe parce que ça polluait les nappes phréatiques. Ça n'a pas empêché pour autant la France d'autoriser l'exportation des cargaisons de ce puissant herbicide qui est fabriqué par la firme agrochimique Syngenta vers des pays en voie de développement. Il y a eu 142 exportations d'atrazine qui ont été autorisées depuis 2004. Donc elle a autorisé la France l'exportation de cargaisons d'atrazine vers la Chine, la Suisse, le Pakistan, le Soudan, l'Ukraine, l'Azerbaïdjan. Et donc c'est quand même aussi inquiétant de voir que des produits malheureusement interdits, on les exporte encore dans des pays en voie de développement. Et on n'hésite pas à aller polluer ces pays. Tout ça, bien entendu, pour des raisons économiques.
Bien sûr. Alors justement, très vite, Jean-Louis, c'est vrai que vous avez parlé d'agriculture intensive et pourtant, des études montrent que l'intensification de l'agriculture est de moins en moins efficace pour améliorer la productivité des cultures à mesure que celles-ci sont de plus en plus dépendantes des pollinisateurs. Alors nous allons très vite au casse-pipe.
Ah ben, c'est certain que on est en train de détruire les sols de plus en plus. Et d'ailleurs, heureusement, on voit quand même poindre maintenant de nouvelles techniques, des agriculteurs, de gros agriculteurs qui commencent à comprendre un petit peu le phénomène. Et on voit des reportages qui quand même rassurent, qui montrent que une autre agriculture est possible, qu'on peut se passer justement de ces produits et puis faire aussi des gains financiers. Ces agriculteurs commencent à s'apercevoir qu'ils dépensent énormément dans tous ces produits et finalement en utilisant des méthodes plus traditionnelles, ils arrivent à regagner de la compétitivité et à avoir des produits de meilleure qualité.
Tout à fait. Puis je crois, Jean-Louis, qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire chez le consommateur. Et si je peux dire, achetons bio, on le dit toujours, pour que les agriculteurs puissent prendre conscience qu'ils se trompent. Mais n'oublions pas que pour le bio, il faut justement des insectes pollinisateurs. Ils sont en train de nous tuer. Alors que dirait Pierre Justin, Marie Mac car entomologiste sur lequel vous venez de publier un livre sur tous les insectes qu'il avait observés. Je voudrais bien savoir ce qu'il dirait à présent.
Ce qu'il dirait à présent, je pense déjà quand on lit un petit peu les textes de ses conférences, qu'il plaidait déjà pour la diversité des méthodes. Donc ne pas justement s'enfermer dans une seule technique, parce que c'est généralement ça court à l'échec, donc il faut diversifier les méthodes. Il plaidait déjà à l'époque, par exemple, pour lutter contre les insectes, contre les betteraves, de passer par des rotations de culture, etc. Donc je pense que il serait tout à fait dans notre ligne de dire attention, les produits chimiques, méfiez-vous.
Mmh. En tout cas,
ce qui me rassure quand même, et pour terminer, c'est qu'il y a quand même 81 sondages, je suis pas fan de sondages, mais quand ils vont dans notre sens, on en profite. Il y a quand même 80% des Français qui ont été interrogés qui sont pour l'interdiction du glyphosate.
Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Jean-Louis, merci et on se dit à la semaine prochaine, bien sûr.
Merci, bonne semaine.
Merci.
À la prochaine.
Très bonne semaine à vous.
Les légumes et les fruits, l'air pur, les sauterelles et les pissenlits. bouche encrassée, je laboure en combi stérilisée.
Y a plus que du maïs à perte de vue.
Les papillons et les oiseaux ont disparu. Roundup, ta terre est à gros. Toujours plus de Roundup, il lui faut. Roundup, les hommes en costard pour t'approvisionner ne sont jamais en retard.
Ma parole, Charlie.
Santo, tu as fait de moi ton esclave. Et oui, Billy the Kick, qui déjà en 2001 avait tout compris. Et justement, c'est presque une suite logique que de retrouver tout de suite Bertrand Trinel de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, qui doit frémir rien que d'entendre le thème Roundup.
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre.
Si tu veux être heureux toute la vie, dit le proverbe, fais-toi jardinier. Chaque semaine, Bertrand Trinel, président de l'Association des paysages, des jardins et des hommes, vous aide à cultiver le vôtre 100% nature. Freud affirmait que la seule chose importante dans la vie, c'est le jardinage. Mais la seule chose importante dans la vie, n'est-ce pas notre santé, c'est-à-dire notre environnement ? Bertrand nous explique comment pratiquer l'un en préservant l'autre.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Martine et bonjour aux auditeurs.
Alors Aristote disait la nature ne fait rien en vain, vous le croyez Bertrand ?
Alors la nature ne fait rien en vain, c'est surtout un beau sujet de philosophie. C'est vrai que lorsqu'on regarde la nature, tout semble parfait et bien ordonné, hein, mais si c'est le cas, on est en droit de se demander quel est le but final de cette vie qui foisonne sur Terre et sans doute ailleurs aussi. Hein. Mais alors il y a d'autres personnes qui pensent qu'au contraire la nature va s'adapter aux situations au fur et à mesure qu'elles arrivent. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'être humain, on est issu de cette nature. Donc, c'est pourquoi il faut absolument continuer à arrêter de la saccager et en urgence la protéger.
Voilà. Tout à fait. Et puis, alors, il y a un dicton qui dit, Bertrand, quand octobre prend fin, dans la cuve et le raisin. Alors, chez nous, pas vraiment de raisin. Hein. Par contre, dans certains vergers, des actinidias, ça fait peut-être un peu un terme un peu pompeux, ce sont des arbres à kiwi, car le kiwi pousse très bien sous nos latitudes lorsque les conditions de pollinisation sont réunies. Et je crois, Bertrand, justement, que c'est le moment de cueillir ces kiwis.
Oui, alors l'actinidia, c'est l'actinidia sinensis, hein, donc comme son nom l'indique, originaire de Chine. C'est une liane qui produit des fruits effectivement appelés kiwis, et l'actinidia a été introduit en France en 1904. Il a fallu attendre quand même pas mal de temps. Nous, dans notre région, c'est arrivé à peu près dans les années 1980. Hein. Mais ça pousse très bien dans le nord. Il suffit uniquement de protéger les pieds les premières années. Il faut savoir aussi que l'actinidia a besoin d'humidité quand même l'été. Et aussi, c'est une plante vorace, donc lui apporter des boîtes de compost au pied à l'automne. Après 5 à 6 ans, vous verrez apparaître les premiers fruits. Hein, on a une quarantaine de fruits après 5 à 6 ans. Et après, c'est exponentiel, hein, ça pousse très bien. Donc c'est vrai, effectivement, fin octobre, c'est le bon moment pour les cueillir. Bon, ils sont pas à maturité du tout, ils sont même très durs, mais ils finiront par mûrir à l'intérieur. Et alors, je vais me répéter par rapport à ce que j'ai déjà dit, mais ne plantez pas des pieds auto-fertiles, mais plantez plutôt un pied femelle ou plusieurs pieds femelles pour un pied mâle, et surtout la variété Eward qui produit de beaux kiwis par chez nous.
Et puis alors, un kiwi fraîchement cueilli peut se conserver quand même quelque temps, Bertrand ?
Alors, en les cueillant maintenant fin octobre, on peut en manger tout l'hiver jusque fin mars.
Moi, j'ai déjà récolté 150 kilos sur un pied. Il suffit de les entreposer dans une pièce un peu fraîche et vous les sortez, mettons par exemple à la cuisine, dans une pièce plus chaude et ils mûrissent tranquillement et au fur et à mesure, vous les renouvelez et vous en mangez jusqu'en fin mars sans aucun problème.
Alors justement, parlons un petit peu conservation. La semaine dernière, vous nous avez dit que c'est le moment de récolter les légumes racines, comme les carottes, les betteraves rouges, les céleri, les panais. Alors pouvez-vous nous dire, Bertrand, comment les conserver au mieux et de façon naturelle, bien sûr, comme les choux, par exemple, dans un endroit frais, mais avec ou sans les racines. Alors, la semaine dernière, vous nous avez dit les choux, faut les cueillir avec les racines, justement, et les mettre dans un endroit frais. Alors, que faire pour les carottes, les céleri? Là aussi, faut les cueillir avec les racines?
Alors, comme je disais la semaine dernière, les choux se conservent mieux quand on cueille avec les racines. Mais les choux, ce qu'on va manger, c'est souche la partie aérienne. Les carottes, forcément, on mange la racine, donc on va récolter la racine. Les céleri, c'est pareil. Les betteraves rouges, c'est pareil. Donc, on les entrepose à l'intérieur, à l'abri du gel, hein. Pas dans une pièce chaude forcément, mais à l'abri du gel. Alors si possible, dans du sable et de la tourbe, hein. Donc une couche de sable, une couche de carottes ou de légumes ou d'autres choses, hein. Une couche de sable ensuite, et ainsi de suite. Alors, si vous n'avez pas de dépendance, vous pouvez quand même les conserver dehors. Alors, je vais vous donner un petit truc pour conserver vos légumes dehors. Dans le temps, on faisait des silos, mais parfois les silos se remplissent d'eau. Donc, moi, je vous conseille de vous procurer de grandes poubelles. Vous savez, les poubelles rondes noires. Vous les enterrez jusqu'à 3/4 dans le sol. Et la terre que vous avez enlevée, vous la remettez autour de la poubelle. Ce qui fait que la poubelle va se retrouver légèrement au-dessus du sol, 1/4 au-dessus du sol, mais protégée par la terre aux alentours. Et ensuite, vous faites la même chose. Vous mettez vos légumes dedans. Donc, sable ou tourbe, légumes, couche de légumes, sable, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en haut, 20 cm de sable, de paille, et vous remettez le couvercle. Donc, lorsqu'il gèle tout ça, vous allez enlever le couvercle, vous écartez la paille, vous prenez vos légumes. Mais tout ça dans cette poubelle, c'est à l'abri de l'eau, c'est à l'abri du gel, et voilà, c'est à l'abri des rongeurs.
Alors, cueillir, bien, d'accord Bertrand, mais une fois que tout cela est cueilli et entreposé, donc dans les conditions que vous venez de nous dire, est-ce que le sol doit rester nu?
Alors, si possible, il faut éviter qu'un sol de jardin reste nu. Donc, dès qu'un emplacement se libère, on peut semer un engrais vert, donc type moutarde ou VS en ce moment, hein, puisqu'on est à l'automne. Mais tout en stimulant la vue du sol, ils vont le protéger, le sol, de l'érosion. En plus, ils captent en profondeur les éléments nutritifs et les ramènent dans leur feuillage. Bon, alors à partir de là, on va les laisser pousser et on va les couper avant la floraison. Alors, deux possibilités. Vous arrivez au printemps, vous avez coupé, ils sont sur le sol, vous voulez planter ou vous voulez semer. Dans ce cas-là, vous allez les ramasser, vous allez les mettre sur le tas de compost, ils reviendront plus tard au jardin à l'automne. Par contre, si vous semez pas tout de suite, vous les coupez, vous les laissez sur place, et puis après, vous allez les intégrer à la première surface de sol, hein, et puis c'est tout. Donc ça va amener tous les nutriments qu'ils ont dans leurs feuilles au sol. Par contre, on peut également couvrir le sol autrement, c'est-à-dire que vous avez fait votre compost, vous avez nettoyé votre parcelle de jardin, et ben vous étalez votre compost sur 2-3 cm au-dessus du sol, et là, tous les micro-organismes, les vers de terre, tout ce qui est dans le sol, va tout incorporer dans le sol. Voilà.
Voilà. Alors, on a bien compris que finalement, le compost, c'est bien sûr le meilleur moyen d'avoir un engrais naturel et une bonne façon de jardiner autrement. Alors, lors de la prochaine émission, Bertrand, vous nous direz comment faire un bon compost pour que ce soit un précieux allié dans notre jardinage. Alors, toujours au jardin, à cette époque de l'année, peut-on encore planter ou repiquer certains légumes ou alors pas? Il faut laisser comme ça.
Alors, au potager, c'est un peu la fin, hein. C'est bientôt le repos hivernal de la nature, mais on peut encore repiquer des choux d'hiver, de l'ail, et si vous avez semé de la salade d'hiver en septembre, vous pouvez aussi la repiquer au jardin. Alors la salade d'hiver, on a une bonne laitue grand-mère dans le nord de la France, hein, qui est bien connue, vous pouvez encore la repiquer.
Alors, nous avons bien retenu, Bertrand, que c'est le moment de préparer de nouveaux parterres et de penser aux plantations dans le jardin d'agrément. Alors, peut-on déjà planter les bulbes?
Alors, oui. Alors, si vous voulez avoir un printemps fleuri, hein, dès les premiers jours du printemps, eh ben, c'est maintenant qu'il faut planter les bulbes. Alors, il en existe un immense choix. Hein. Il y a des tulipes, toutes sortes de tulipes d'ailleurs, des narcisses, des jonquilles, des jacinthes, des crocus, de l'ail, des anémones, des camassias, des cyclamens, des érantis. Il y a plein, des fritillaires, des personnages, des gladiolus, des muscaris. Alors, Il faut faire attention quand même parce qu'il y a de nombreux bulbes qui sont des mets de choix vraiment pour les rongeurs. Hein. Alors les crocus, les alliums et les cambassioles et les rongeurs s'en régalent. Alors par contre, ils vont pas consommer les bulbes toxiques comme les narcisses, les galanthus, qui sont des personnages, hein, la fritillaire. Alors la fritillaire, ça aura plutôt pour effet de les repousser et sur un rayon d'1,50 m autour, souvent les rongeurs ne viennent pas. Alors, bien sûr, pour les autres bulbes qui sont bien comestibles, on peut aussi prendre un grillage, un maille fine, hein, faire une petite coupe qu'on va enterrer dans le sol, mettre les bulbes après dedans, et comme ça, ils seront protégés des rongeurs. Mais après, on peut aussi mettre, quand vous plantez, des bulbes, vous pouvez mettre au fond un peu d'huile de ricin, quelques gouttes d'huile de ricin, vous remettez un peu de terre, vous mettez votre bulbe, ça repousse les rongeurs également. Vous pouvez également, une autre solution, si vous n'avez pas tout ça, il y a toujours des sureaux dans le coin, et ben vous mettez quelques branches de sureau enterrées dans le sol, des petites branches de sureau, ça a un effet répulsif également pour les rongeurs. Alors bien sûr, les sureaux, ils peuvent s'enraciner. Donc au printemps, ben, quand c'est en fleurs, vous les enlevez. Voilà. Sinon, n'hésitez pas à mettre des bulbes maintenant, ce sera un bonheur au printemps.
Tout à fait. Et puis alors Bertrand, dans 2 jours, ce sera la Toussaint avec sa profusion de chrysanthèmes. C'est difficile de récolter des chrysanthèmes?
Ben, c'est pas trop difficile. Donc moi, ce que je conseille toujours, c'est au lieu de jeter les chrysanthèmes, ben, récupérez-les. Lorsqu'elles sont fanées, au lieu de les jeter à la benne au cimetière, surtout les pomponnettes, hein, les pomponnettes ça marche très bien, vous les repiquez dans une bonne terre humifère dans votre jardin, vous les protégez un peu de paille et puis un voile de forçage au-dessus pour l'hiver, au printemps vous dégagez la paille, et puis vous allez voir, ça va redémarrer un peu, assez touffu d'ailleurs. Donc après il suffit de prendre des éclats de chrysanthèmes, de les repiquer, de pincer la tige quand elle fait à peu près 10 cm, vous la passez à 4 cm de haut, et du coup ça va se ramifier, et puis vous arrosez pendant l'été s'il fait sec, et puis vous allez voir vos chrysanthèmes qui vont fleurir. Et un conseil que je peux vous donner aussi, c'est que les chrysanthèmes, c'est vraiment une très belle fleur d'automne, hein, au Japon c'est vraiment la fleur de la joie, donc vous pouvez en mettre dans vos parterres de vivaces, dans vos parterres de fleurs, ça va agrémenter très bien vos parterres.
Alors, très vite Bertrand, parlons de votre association des paysages des jardins des hommes, vous êtes toujours à la recherche de vieux outils?
Oui, alors on est toujours à la recherche de vieux outils. Alors premièrement, les vieux outils, ça peut nous servir pour nos cours de jardinage avec les enfants. Et deuxièmement, on cherche des vieux outils rouillés, sans manches, tout ce qu'on veut, pour faire des œuvres d'art qu'on mettra au jardin de l'ermite. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous donner nos coordonnées à l'antenne.
Tout à fait, allez-y.
Vous pouvez toujours me contacter au 06 11 38 73 11, 06 11 38 73 11, ou par mail, en minuscule, rêvedejardin@orange.fr, jardin sans S, rêve de jardin tout collé. Voilà,
merci, on rappellera à l'occasion cette annonce. Merci Bertrand. Alors on vous retrouve dans 15 jours, les vacances de Toussaint ce ne sont pas faites que pour les écoliers, donc on se dit à bientôt Bertrand.
À bientôt, merci.
À bientôt.
Enfin.
J'aimerais savoir pourquoi on ne la voit jamais au banquet des mariages auprès des nouveau-nés. Elle n'est pas si vilaine, vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi nous fait-elle peur, dites-moi? Chat noir, chat blanc, tant de superstitions. Et si l'on faisait d'elle la fleur de la passion? Pour ce conte effleurette, on préfère la rose. Sous la plume des poètes, tu n'inspires pas la prose. T'en imposes en couronne, mais tu n'es pas une reine. Tu n'es que le témoin de nos peines. Autant tirer le diable par la queue pour trouver bénéfice dans tous nos rêves pieux. Petite chrysanthème, tu portes les non-dits. Pour nous, tu cries je t'aime. Lorsque s'en va la vie, un bouquet de chagrin pour nos âmes en chemin.
Eh oui, comme le disait Bertrand, c'est vraiment la fleur de l'automne et pas seulement la fleur des morts. Les chrysanthèmes, c'est très très joli. Allez, sans transition, on accueille sur cette antenne Julie Descriem. Mais oui, nul ne sait vraiment quand et où le verre a vraiment été inventé, mais cette matière noble fascine encore et l'art de le souffler est apparu au Moyen-Orient vers 300 avant notre ère. Alors le verre est aujourd'hui devenu un élément essentiel aussi bien au niveau de notre vie quotidienne que dans le domaine scientifique, et le verre soufflé a acquis le statut d'art. Julie Descriem, bonjour.
Bonjour.
Alors, très tôt, vous vous êtes sentie destinée pour l'art, art plastique, sculpture, céramique. Vous en avez d'ailleurs fait votre métier puisque vous êtes professeur d'art graphique et de sculpture modelage à l'école d'art de la CAPSO à Aire-sur-la-Lys. Mais très vite, votre véritable passion a été de souffler le verre et de donner à ce matériau fragile, cassant et transparent des formes, toutes sortes de formes. Alors pourquoi ce choix et qu'est-ce qui vous fascine dans cette activité artisanale ?
Bah, en fait, ce qui me plaît, c'est autant le travail de la matière en fusion que le résultat final, où le verre est transparent, froid, figé, alors qu'on travaille avec une matière, toute souple, en fusion. Voilà, c'est toutes les possibilités qu'offre le verre. C'est ça qui m'a intéressée.
Alors justement, quelles sont les techniques que... Alors, juste d'abord, je voudrais vous demander dans vos créations, Julie, quels sont les objets de prédilection que vous aimez façonner ? Car il est vrai qu'avec du verre, finalement, on peut pratiquement tout faire.
Ben oui, il y a une possibilité assez large. En fait, moi, je réalise des cloches en verre soufflé qui me servent à protéger des savoir-faire... notamment des savoir-faire transmis par mes grands-mères, comme le tricot, la couture, des savoir-faire plutôt féminins. Et je vais les protéger sous une cloche en verre soufflé, qui est plutôt un savoir-faire à l'origine plutôt masculin. Ensuite, je réalise aussi des gobelets en verre en forme de bouteille d'eau cabossée. Et je propose ces gobelets en verre, donc 100% recyclables, pour boire l'eau du robinet.
D'accord. Alors, justement, quelles sont les techniques que vous employez ?
En fait, je travaille le verre soufflé à la canne et après, je réalise aussi des plus petits objets tels que des bijoux. Et là, ce sera plutôt filé et soufflé au chalumeau. En fait, c'est essentiellement des techniques qu'on appelle des techniques à chaud.
Tout à fait. Ah oui. Alors, bien entendu, Julie Descriem, il est hors de question de faire ça dans sa cuisine, n'est-ce pas, même ? Et
oui.
vous avez installé votre atelier dans le centre-ville d'Isberg, atelier dans lequel vous travaillez, donc, mais c'est aussi un local d'exposition. Est-ce que c'est aussi un local de vente ?
Alors, en fait, j'organise durant l'année des portes ouvertes, notamment en octobre avec les portes ouvertes des ateliers d'artistes. Sur un week-end. Ensuite, je réalise des événements au mois de décembre à l'occasion des fêtes de Noël. Et en avril, sont les journées des métiers d'art aussi qui permettent de communiquer sur des ouvertures comme ça de l'atelier.
Alors, Julie Descriem, vous êtes véritablement une artiste, peut-être pas connue, mais en tout cas reconnue, et vous avez déjà un certain nombre d'expositions à votre actif, et puis surtout vous avez obtenu la confiance de célèbre maestro de Murano, ville italienne célèbre depuis le XIIIe siècle pour la qualité de ses artisans verriers de renommée internationale.
Oui, en fait, j'ai eu la chance d'apprendre ces techniques au CERFAB en Lorraine et de faire des stages dans plusieurs ateliers et plusieurs pays verriers, en fait, tels que Murano ou en Suède aussi notamment. Et c'est vrai que ça a été une chance d'apprendre. De toute façon, le verre soufflé, c'est une technique qui se transmet que de maître à élève. On ne peut pas apprendre ça soi-même, en fait.
Mmh. Ah, et puis le Murano, c'est tellement joli.
Ben oui, c'est sûr que quand on travaille le verre, c'est incontournable.
Ah oui, tout à fait. Alors Julie Descriem, vous serez les 25 et 26 novembre à Saint-Omer. Dites-nous, vous allez nous en dire un peu plus, bien sûr.
Oui, alors en fait, je suis invitée par un collectif d'artistes qui s'appelle L'Art Hybride, qui ont leur atelier au 8 rue Simon-Augier à Saint-Omer. Et on organise en fait un week-end de vente de créateurs. Donc, on va être plusieurs créateurs, stylistes, céramistes, tourneurs sur bois. Et voilà, si ça vous intéresse de venir voir des choses de travail d'artisan d'art et des choses uniques.
On retient les dates 25 et 26 novembre à Saint-Omer. Vous pouvez nous dire où ce sera exactement ?
Donc c'est 8 rue Simon Ogier à Saint-Omer et ce sera de 10h à 19h.
8 rue
25 et 26 novembre. Simon Ogier.
Voilà, d'accord. Alors, bon, et puis Julie, tout le monde connaît bien sûr la verrerie cristallerie d'Arc, hein, Arc International, qui, il est peut-être utile de le rappeler, a été pionnière en intégrant les premières machines à souffler le verre, première en France aussi à proposer des verres décorés. Et pour l'avoir visité, je peux ajouter que les équipes conjuguent toujours créativité et savoir-faire pour répondre aux besoins des utilisateurs. Or, vous collaborez avec une grande entreprise pour la avec cette grande entreprise pour la réalisation de prototypes.
Oui, en fait, je réalise des prototypes, des nouveaux modèles qui ont été imaginés par leur équipe de designers. Et ensuite, ces modèles, s'ils sont validés, sont produits de façon industrielle.
Alors, on a envie de voir, de pouvoir admirer, de vous voir travailler. Et je rappelle donc que vous serez à l'atelier de l'art hybride les 25 et 26 novembre, mais que votre atelier à vous, ouvert de façon occasionnelle, se situe au 168 rue Roger Salengro à Isberg. Alors, Mayoche & Co, c'est son nom. Ça mérite peut-être une petite explication, là.
Alors en fait, Mayoche, c'est un nom d'un outil en bois en forme de comme une grosse cuillère en bois qui sert à maillocher, en fait, à façonner le verre chaud, le verre en fusion. Et en fait, Enco, parce que en fait, c'est assez rare aussi que je travaille toute seule. J'aime bien justement me lier à d'autres artisans d'art ou d'autres créateurs, comme à l'occasion de l'art hybride. Et donc voilà, c'est Mayoche et. Et tout le monde.
D'accord. En tout cas, on a bien compris que souffler le verre est une véritable passion pour vous, passion que vous avez envie de partager, de transmettre. Hein, et vous voudriez accueillir des stagiaires, c'est bien ça?
Oui, j'espère, parce que là, l'atelier donc a changé d'adresse il y a peu, donc c'est vrai que j'ai encore un peu de temps pour m'installer, pour pouvoir accueillir dans de bonnes conditions des stagiaires afin de transmettre, parce que je pense que c'est important de transmettre ses savoir-faire, sinon ils disparaîtront de nos mémoires et là ce sera catastrophique.
Tout à fait. Alors Julie, on rappelle l'adresse de votre site?
Oui, donc c'est www.mayocheandco.fr.
Voilà. Et puis de toute façon, alors je rassure ceux qui ne veulent pas faire www, en tapant dans oui. Google Julie Décriem à Isberg ou alors Mayoche & Co, eh bien on tombe de toute façon tout de suite sur votre site. En tout cas, Julie, merci et on ira donc vous saluer soit le 25 ou 26 octobre à Saint-Omer. Merci Julie.
Oui, merci.
Et
bonne journée.
Quand vous voulez sur cette antenne, bien sûr.
Merci à vous.
Au revoir. Ça a toujours fait rêver, le verre. Alors tout de suite, si vous le voulez bien, on poursuit ensemble avec musique et chansons. Kaléidoscope, c'est après la petite page de publicité. Et vous savez qu'il vous est possible de réentendre ces émissions en podcast, comme on dit, sur notre site. Alors bye bye à vous et j'espère à tout de suite.